Pauline Pucciano, Paradict. 15 novembre 2071. Paradict. L'architecture est-elle le 9e art? Un module de protection imprimable en 3D pour les événements climatiques extrêmes. La machine est l'avenir de l'homme, déclare Graham Chalayan. Abel était en train de lire, avec un vif intérêt, les textes que le professeur venait de leur envoyer sur Joseph Fouché. Homme trouble, dans des temps troubles, Fouché s'était distingué à la Révolution comme sous l'Empire, auprès de Robespierre comme de Napoléon, dans les actions violentes comme dans le renseignement. Balzac en parlait ainsi. Ce singulier génie qui frappa Napoléon d'une sorte de terreur ne se déclara pas tout à coup chez Fouché. Cet obscur conventionnel, l'un des hommes les plus extraordinaires et les plus mal jugés de son temps, se forma dans les tempêtes. Il s'éleva sous le directoire, à la hauteur d'où les hommes profonds savent voir l'avenir en jugeant le passé. Puis, tout à coup, comme certains acteurs médiocres éclairés par une lueur soudaine deviennent excellents, il donna des preuves de dextérité pendant la rapide révolution du 18 Brumaire. Cet homme au pâle visage, élevé dans les dissimulations monastiques, qui possédait les secrets des montagnards auxquels il appartint et ceux des royalistes auxquels il finit par appartenir, avait lentement et silencieusement étudié les hommes, les choses, les intérêts de la scène politique. Il pénétra les secrets de Bonaparte, lui donna d'utiles conseils et des renseignements précieux. À ce moment, ni ses anciens ni ses nouveaux collègues ne soupçonnaient l'ampleur de son génie purement ministériel, essentiellement gouvernemental, juste dans toutes ses prévisions et d'une incroyable sagacité. Le texte de Stefan Zweig, lui, disait « Aucun des profils de Fouché ainsi fugitivement saisis ne concorde avec les autres. Il faut faire un certain effort pour se représenter le même homme de chair et d'os. En 1790, professeur ecclésiastique, et dès 1792, pilleur d'église. En 1793, communiste, et à peine 5 ans après, 3 fois millionnaire. Enfin, 10 ans plus tard, duc d'Otrante. Mais plus ces changements étaient hardis, et plus devenait intéressant pour moi le caractère, ou plutôt l'absence de caractère, du plus parfait des disciples de Machiavel, plus sa vie politique tout entière, passée dans les coulisses et dans les ténèbres, devenait pour moi captivante, et plus sa figure prenait à mes yeux une allure originale et même démoniaque. Chaque jour, nous constatons encore que, dans le jeu ambigu et souvent criminel de la politique, auxquels les peuples confient toujours avec crédulité leurs enfants et leur avenir, ce ne sont pas des hommes aux idées larges et morales, aux convictions inébranlables qui l'emportent, mais ces joueurs professionnels que nous appelons diplomates, ces artistes aux mains prestes, aux mots vides et aux nerfs glacés. Zweig, plus loin, clôturait sa biographie avec ces mots. Jusque dans la tombe, cet homme obstinément muet ne révèle pas toute la vérité. Il a emporté avec lui, jalousement, dans la froide terre, ses secrets, pour rester lui-même un secret, quelque chose de crépusculaire entre la lumière et l'ombre, un visage qui ne se dévoile jamais entièrement. Mais c'est précisément pour cela qu'il suscite toujours et sans cesse le jeu de la recherche, ce jeu qu'il a si magistralement pratiqué. C'est pour cela que l'on essaie de découvrir, d'après des traces légères et fugaces, toute la vie tortueuse et, d'après son destin changeant, l'essence spirituelle de celui qui fut le plus remarquable de tous les hommes politiques. Abel leva les yeux et s'aperçut qu'il n'était pas le seul à avoir terminé sa lecture. Il y avait parmi ses condisciples beaucoup de gens aussi rapides et probablement aussi intelligents que lui. Cette pensée avait quelque chose de reposant. Il se sentait presque invisible dans cette foule de jeunes gens triés sur le volet, ayant passé avec succès les épreuves d'une sélection exigeante. Combien de Fouché parmi eux? Combien de personnalités érigeant l'intelligence en seule vertu et l'efficacité en seule norme? Combien de ces figures aux profils insaisissables, irréconciliables, dont l'histoire peinerait à dresser un portrait cohérent? Beaucoup d'historiens, commenta le professeur, un homme d'âge mûr dont la voix monocorde se mettait parfois à vibrer, considère que Fouché est le père fondateur, l'inventeur en quelque sorte de la police moderne, et par là même presque de l'État moderne. Et s'il faut vraiment aller dans ce sens, il faudrait ajouter que ce qui est moderne chez lui, comme le soulignait Jean Tullard, dont nous parlions l'autre jour, c'est à proprement parler les méthodes. Des méthodes plutôt douteuses, des indiques retournés en prison, des coups fourrés, un personnel ayant fait ses preuves dans des circonstances parfois fangeuses. Mais il y a plus, il y a aussi, plus de 200 ans avant la révolution informatique, cette intuition fulgurante de l'importance de l'information. L'information cesse, avec Fouché, de valoir uniquement en fonction de la question que l'on se pose ou de l'action que l'on entreprend. L'information acquiert une dimension et une valeur autonome. On la collecte pour elle-même, on la capitalise, on la cache comme un trésor, et l'on finit par en tirer des intérêts, presque fortuitement. Les dossiers de Fouché ont continué à inquiéter la classe politique jusqu'après sa mort, tant l'on craignait leur divulgation. La plupart de ces dossiers n'auront probablement jamais été utilisés, mais leur existence même, leur nombre, leur mystère, suffisaient à réguler la société. Je vous laisse méditer sur cette dernière idée. Les étudiants quittaient la salle par petits groupes. Abel connaissait déjà le nom de la plupart d'entre eux et savait échanger quelques mots aimables avec tout le monde, mais ne frayait véritablement avec aucun. Il avait une conscience aiguë d'être le frère de la future secrétaire générale. Cette position présentait un certain nombre d'avantages, comme le respect immédiat des élèves et des professeurs, la célébrité et l'aura de pouvoir dont il jouissait sans effort. Elle présentait aussi certains inconvénients, dont il s'accommodait. Les gens se montraient soit trop curieux, soit trop distants, et il lui avait paru plus simple dès l'abord de faire cavalier seul. Son nom était une barrière, une vitre derrière laquelle on l'admirait sans pouvoir le toucher. Et il préférait souvent ses pseudonymes. Abel Escanza, ou même Caïn, parlait et agissait plus librement. Il lui semblait même qu'ils échappaient souvent au contrôle de son propre inconscient et révélaient une part de lui qu'il connaissait à peine. Il n'était cependant pas l'heure de laisser libre cours à ses capricieux avatars, mais celle de traverser les locaux souterrains de la WA pour rendre une visite de courtoisie, toute diplomatique, à Elsée. Quitter les locaux de l'Intel Agency et remonter aux étages des parties, c'était comme effectuer un voyage en arrière dans le temps. La qualité de la lumière artificielle baissait, les robots disparaissaient des couloirs et les portes ne possédaient plus de scan. L'air conditionné ne fonctionnait plus, devenait lourd, saturé par les haleines maladives de tous ces orateurs épuisés. Des batraciens et des insectes, absents des étages inférieurs, couraient le long des murs. Les partis n'étaient clairement pas la priorité de la WA, qui les finançait comme on paye à un parent pauvre des études au rabais. Abel n'avait jamais fait partie du cercle professionnel d'Elsée en tant qu'étudiant, mais son entrée à l'Intel Agency valait tous les laissez-passer. Il ferait partie du gratin de la WA, avec un bras aussi long qu'invisible, et on le considérait déjà, malgré son jeune âge, comme un collaborateur potentiel, un rival en puissance, un futur allié, dont il fallait se garder de heurter la susceptibilité. De plus, il jugeait maintenant indispensable de tirer tout le parti possible de la situation. Et il n'avait certes pas choisi l'ascension fulgurante d'Elsée, qui lui causait un certain agacement depuis le début. Mais maintenant que cette ascension devenait concrète, réelle, maintenant que la victoire semblait de plus en plus inéluctable, il fallait en profiter pour s'immiscer dans les cercles du pouvoir, pour observer les hommes, pour inspecter les coulisses. Il sentait que la passion de l'information, à elle seule, était presque capable de remplir une vie. Lorsqu'il arriva à hauteur du bureau d'Elsée, il fut arrêté par Karl Courseul, qui semblait lui-même attendre d'être introduit. « Votre sœur est avec John Higgins, » lui expliqua-t-il à mi-voix, d'un air entendu. « Elle ne devrait pas tarder. » Abel reconnut évidemment le nom qui traînait dans les reportages racoleurs de Kim Cooligan. Il en fut surpris, mais ne le montra pas. Il savait que Higgins était un scientifique dont les spécialités tournaient autour des technologies de l'information. « Oui, elle m'avait dit qu'elle devait faire un point avec lui ce matin. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Quel genre d'homme est-il ?» Il avait posé cette question précisément à Karl Courseul, car il avait depuis longtemps compris qu'afin de glaner les meilleurs renseignements, il fallait savoir poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Karl Courseul était expert en communication. Son jugement sur les hommes ne se faisait pas au regard de ce qu'il disait, mais au regard de tout le reste, et son avis pouvait se révéler intéressant. Ses points forts? L'intelligence et la précision. Le dévouement aussi, et la puissance de travail. ses points faibles. Ses compétences sociales ne sont pas très aiguisées, et j'ajouterais aussi qu'il peut faire preuve d'une certaine fermeture. Dans la discussion, Coursol cherchait la formulation exacte. Il est trop concentré sur son propre projet, sur sa propre vision, pour rester ouvert à tous les autres paramètres. La vie des autres, le monde qui l'entoure, les changements extérieurs. Je dirais qu'il a une forme d'intelligence séquentielle très développée. Et très légèrement autistique? Je n'aime pas ce terme. Abel prit une décision soudaine que Karl Coursol ne put anticiper. Il entra dans le bureau. L'expert en communication, fait rarissime, se trouva un peu décontenancé. Mais la porte s'ouvrant déjà, il était impossible de faire un esclandre. Il s'agissait du frère d'Elsée. Qui savait ce qu'elle l'avait autorisé à faire et quel était leur degré de proximité? Il ne voulait pas paraître ridicule et laissa donc la chose arriver. Abel surmonta l'envie de sourire que lui causait l'air surpris et indigné de sa sœur. Cela lui rappelait le temps où, enfant, il pénétrait dans sa chambre d'adolescente. Elle le gratifiait toujours de ce même regard, et cela ne l'avait jamais empêché de recommencer. « Elsée, je suis vraiment désolée de te déranger, mais Karl m'a dit avec qui tu étais en réunion, et j'ai tellement entendu parler de M. Higgins que je brûlais de le rencontrer. Tu veux bien me présenter ?» John Higgins, qu'Abel ne regardait pas directement, donnait cependant tous les signes du malaise. Elsée marqua un temps de silence un peu trop long, lourd de menaces et de reproches, puis elle finit par sourire d'un sourire artificiel. « John, je vous présente mon insolent petit frère, Abel Costa, qui vient d'entrer à l'Intel Agency et qui se révélera probablement un auxiliaire précieux de notre gouvernement. » John Higgins ne savait pas s'il devait se lever. « Restez assis, je vous en prie, » dit Abel en lui tendant la main. Higgins tendit la sienne, mollement. « Enchanté, » dit-il. « Mais je vous en prie, ne vous dérangez pas, continuez votre conversation, » dit Abel. Elsée examina son frère, le plus rapidement possible. Il était en train de lui arracher un secret. On les formait vite à l'agence, mais ce secret était à moitié éventé, et il serait de toute façon parmi les premiers à l'apprendre. Elle pouvait certes le congédier d'un ton sec, mais n'était-il pas préférable de lui manifester sa confiance? Elle aurait certes besoin d'intelligence comme la sienne au moment de rendre Léviathan public. Cela n'était peut-être pas une mauvaise chose. Elle adressa un regard rassurant à John Higgins, dont elle sentait poindre l'inquiétude. « Abel est mon frère, comme je vous l'ai dit. Il jouit de mon entière confiance. » Puis elle se tourna vers Abel. « John et moi sommes en train d'étudier les dernières recommandations de notre intelligence artificielle. » Abel fit semblant de ne pas être surpris. « Et à quelle conclusion êtes-vous arrivé ?» John Higgins avait visiblement vaincu sa réticence et s'exprima avec plus de naturel. J'expliquais à votre sœur qu'il n'était pas possible de cantonner Léviathan à l'analyse statistique projective des réformes inventées par l'humain. Bien sûr, c'est un premier pas dans la rationalisation politique, mais ce n'est pas pour ça que j'ai travaillé pendant 25 ans. C'est beaucoup plus vaste que cela. Il serait pourtant fort intéressant de pouvoir évaluer à l'avance l'efficacité d'une réforme, se hasarda Abel. « Oui, c'est ce que je disais à John. C'est déjà une révolution sans précédent dans l'art de gouverner. »« C'est comme d'avoir une fusée et de s'en servir pour aller aux États-Unis, » rétorqua Higgins. « Ne faut-il pas nous habituer progressivement à l'utilisation de Léviathan ? Nous, les politiques, mais aussi l'opinion publique ?» Higgins eut un haussement d'épaule méprisant. « L'opinion publique ne doit pas être prise en compte. Elle n'est pas un moteur de l'histoire, mais un épiphénomène, bien sûr. » Nous allons faire des ronds dans l'eau. Léviathan, comme vous l'appelez, est-il déjà opérationnel ? Demanda Abel. Parfaitement, dit Higgins avec chaleur. Nous ne l'avons pas pris en défaut, pas une fois, depuis plusieurs mois. J'ai soumis à son analyse statistique projective le programme de réforme préconisé par le Parti du Développement, expliqua Elsée. Et ? Elsée fit un petit signe à Higgins qui tendit à Abel une tablette où apparaissait un rapport d'expertise. Il le parcourut avidement. Cela commençait par un relevé d'incohérences. Les effets à court ou moyen terme de certaines mesures contrecarraient les effets d'autres mesures. Il s'agissait parfois d'effets secondaires paradoxaux, parfois d'incohérences fondamentales. L'intelligence artificielle en avait débusqué 37. Puis, le rapport examinait chaque mesure par rapport à l'objectif majeur, le développement durable de l'humanité, exprimé par un double paramètre environnemental, seuil supportable de réchauffement climatique et social, taux acceptable de mortalité, de zones de la planète en conflit armé, de malnutrition. Les scores de chaque mesure se talonnaient au-dessous de 10% d'efficacité projetée. Certaines mesures se voyaient carrément gratifiées d'un 0%. Enfin, le rapport mesurait l'efficacité de chaque mesure uniquement par rapport à l'objectif environnemental. Là, certaines mesures avoisinaient les 40%. Mais cela signifiait que le volet social n'était plus pris en compte et que la santé et la paix des humains n'étaient plus poursuivis en tant qu'objectif politique. Abel avait pris connaissance du document en suspendant volontairement son jugement. Il fallait apprendre, connaître, savoir, avant de juger. C'était un principe élémentaire. « On dirait qu'il faut revoir complètement la copie, » dit-il en rendant la tablette à Higgins. « C'est impossible à quelques semaines des élections globales, tu n'y penses pas, » dit vivement Elsie. « Quel est votre avis d'expert ?» demanda Abel à Higgins. La question était sournoise, car Abel savait que Higgins, probablement expert en programmation et en modélisation, n'était pas expert en politique. Mon avis est que si nos intelligences humaines les plus brillantes n'ont réussi à pondre que ça, il vaut mieux confier notre avenir à quelque chose de plus performant. En d'autres termes, dit Elsie, John souhaite que nous demandions à Léviathan d'écrire un programme de réforme vraiment efficace. Nous pouvons lui soumettre autant de paramètres que nous voulons. Développement durable, mais aussi popularité auprès de l'opinion. John pense que Léviathan peut trouver la formule optimale qui nous permette de gagner les élections tout en restant dans une zone d'efficacité acceptable. Abel, le jugement toujours suspendu, hocha la tête. « Et toi ? » demanda-t-il à sa sœur. « Moi, je pense que si nous franchissons le pas, ce que je ne suis pas encore prête à faire, je ne fais qu'étudier la possibilité, il serait stupide de le faire à moitié. Si vraiment nous décidons que Léviathan a la capacité de sauver l'humanité, alors il ne faut pas lésiner. Soit il faut retourner l'opinion publique en notre faveur, lui expliquer ce qu'est Léviathan et les possibilités de salut qu'il nous offre, soit il faut montrer patte blanche pour les élections pour avoir les coudées franches après. Tu veux dire, annoncer un programme inoffensif et inefficace, et en appliquer un autre, celui de Léviathan, résuma Abel. Annoncer un programme et en appliquer un autre. Quel parti politique n'a pas fait ça, au moins au cours d'une élection? C'est pratiquement la définition même du jeu électoral. Tout cela mérite beaucoup plus de réflexion que je n'ai eu le temps d'en avoir, dit Abel gravement. « Veux-tu que j'y réfléchisse ?»« La question est, maintenant que tu connais le dossier, pourras-tu seulement t'empêcher d'y réfléchir ?»« Sans doute que non, » admit Abel. « Alors tiens-moi au courant de tes réflexions. Je ne veux pas me précipiter. Il est important que j'aie plusieurs avis. »« Tu devrais organiser un conseil autour de cette question, réunir quelques personnes avec des historiques, des horizons, des méthodes de pensée différentes. Un ou deux politiques, peut-être ton conseiller en communication. » Un climatologue, un historien, des scientifiques extérieurs au projet, évidemment l'équipe de John. Tu devrais le faire rapidement. Elsie sourit. Elle était contente de s'être ouverte de ce problème à son frère, qui se révélait d'une grande aide. Elle n'avait pas manqué de discernement. C'est une très bonne idée, Abel. Accepterais-tu de participer à ce conseil ? Ce serait un honneur, dit Abel. Il prit congé très courtoisement et gratifia Karl Kursel, toujours à la porte, d'un grand sourire épanoui. Il se sentait surexcité par ce qu'il venait d'apprendre. C'était une information capitale, un morceau de choix. Abuela serait fière de lui et Cyril Borgeist également. Le soir même, Abel se glissa dans sa combinaison d'immersion qu'il appelait sa peau de Caïn. Puis il se connecta au paradicte. La petite musique du générique lui causa un plaisir intime et enfantin, probablement une petite décharge de dopamine. Puis, dans la peau de Caïn, il changea de monde. Caïn était devenu en peu de temps un ange accompli. Il avait des relations interlopes dans les lieux les plus divers du paradicte, contrairement à son frère, qui n'avait jamais eu de démarche systématique pour visiter cet univers et qui s'était laissé porter par sa poésie. Il avait été dénicher les lieux les plus improbables, les créatures les plus extrêmes, et avait poussé aussi loin que possible, pour l'expérience, cette étrange déconnexion entre le cerveau et le corps que la magie virtuelle opérait. Comme un breuvage trouble et hallucinogène, le paradicte entrait dans son corps et modifiait ses perceptions. Il adorait tourner la tête et voir un espace virtuel derrière lui, au-dessus de lui, parfois un gouffre s'ouvrant à ses pieds, tout en se rappelant qu'il était immobile dans son fauteuil. Les premières séances avec la combinaison lui avaient donné de fortes nausées. Mais son cerveau s'habituait à ce leurre, un peu plus à chaque nouvelle séance. Il s'était beaucoup amusé tout de suite aux interactions sociales délirantes de cet univers sans conséquences. Cain était arrogant, agressif, critique, et participait à des joutes verbales improvisées dont il sortait souvent vainqueur. Son ange se perfectionnait sans cesse, car Abel savait maintenant architecter presque tous les objets et tous les lieux qui lui passaient par la tête. Rapidement dépassé par sa soif d'apprendre, Alvar l'avait mis en contact avec Elina, qui lui avait appris quelques raccourcis intéressants. Puis, son ange avait volé de ses propres ailes. C'était un ange qui ne payait pas de mine et qui lui faisait éprouver les délices de l'insignifiance. Un ange pourvu cependant de fonctionnalités originales, comme la capacité à traverser les murs, et doté de perceptions sensorielles très aiguisées qui lui permettaient d'entendre des conversations lointaines et de reconnaître une cible précise instantanément dans une foule. Il venait de mettre au point un objet semi-inerte qui lui avait donné du fil à retordre, un objet capable d'émettre un message et de se dupliquer lui-même par simple contact. Le choix de l'objet avait pris du temps à Abel. Qu'est-ce que les anges auraient envie de toucher, d'attraper, dans un monde où il n'y avait ni argent ni nourriture? Il s'était rabattu sur un objet simple, inoffensif, hautement symbolique et séduisant. Une clé. Il l'avait dessinée avec beaucoup de soin et avait produit un assez joli modèle de clé ancienne, gravé d'une lettre gothique et pourvu de scintillements irisés. Il s'agissait d'une clé flottante, et lorsqu'on la touchait, elle se mettait à produire un petit tourbillon dont des lettres jaillissaient une à une. C-A-R-P-E-F-A-T-U-M. Par cette petite explosion, les lettres s'éparpillaient à quelques mètres à la ronde, et chacune devenait l'ornement d'une nouvelle clé. C'était un objet à déposer dans un lieu fréquenté. Son défaut était la portée extrêmement locale de sa duplication, et aussi le format très réduit du message. Cela avait plu, cependant, à Cyril et à Oswald, qui l'avaient encouragé à continuer. Tous les deux étaient prêts à se damner pour un peu de visibilité. C'était là le désir des faibles, des minorités, des dissidents. Le vrai pouvoir cherchait au contraire les lieux d'ombre, les écrans derrière lesquels il pouvait dissimuler ses armes, ses crimes et ses intentions. Comme Fouché, comme Elzé. Il songea à l'énorme machine qu'elle dissimulait derrière l'écran charmant de ses boucles brunes et de son visage de poupée. Il pensa aussi aux heures passées, dans son enfance, à jouer aux échecs tout seul, en jouant à la fois les noirs et les blancs. À chaque coup, il se déplaçait autour de l'échiquier et envisageait le champ de bataille d'un point de vue nouveau. Il devenait facile de déjouer les pièges, mais, paradoxalement, cela n'empêchait en rien la partie d'avancer, et le plaisir du jeu n'en était nullement diminué. Abel estimait, dès ses 8 ans, que lorsqu'on aime vraiment, profondément le jeu, on devrait se moquer du camp auquel on appartient. Demain, Abel informerait Cyril du projet Léviathan, et ce serait alors au noir de jouer.